Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
À la une, cet appel du maire de Goma aux jeunes des mouvements citoyens à s'enrôler massivement dans la police pour lutter contre l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la ville. Appel lancé lors d'une rencontre hier entre les deux parties et d'autres structures de la société civile. Justice, affaire Mwanga Chouchou et son co-détenu policier. À l'audience d'hier, Edouard Mwanga Chouchou, prévenu principal, a reconnu avoir détenu l'arme GP et 42 munitions de guerre, mais avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur, selon sa déposition. C'est à l'audience de mardi prochain que le coffre-fort de ce député sera publiquement ouvert pour découvrir ce qui y est caché. Madame, Messieurs, bonjour. Honor Kivu, le maire de Goma, invite les jeunes des mouvements citoyens à s'enrôler massivement dans la police pour lutter contre l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la ville. Appel lancé hier lors d'un face-à-face entre le commissaire supérieur principal, Kabea Makosa François, maire de Goma, les cadres de base, les représentants des mouvements citoyens et autres structures de la société civile. Au menu, l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la ville de Goma, caractérisée par le meurtre qui n'en finissent pas. Pele Kipela Mundo.
Séance tenante, plusieurs facteurs qui justifient cette situation ont été soulevés. C'est notamment les phénomènes 40 voleurs, la présence des camps militaires dans la ville, dont celui de Munzenze, ainsi que les camps Katindo. La circulation des hommes porteurs illégaux d'armes dans la ville, appelés Wazalendo, mais aussi la présence injustifiée des militaires dans plusieurs quartiers de la ville, et bien d'autres maux qui sont à la base de l'insécurité, ont été évoqués devant les maires. Le commissaire supérieur principal Kabea Makosa François a tout d'abord salué cette initiative de la population de s'approcher de l'autorité. C'est, avant d'expliquer à ses interlocuteurs, les défis que rencontrent les agents de sécurité affectés à la sécurisation de la ville. Kabea Makosa a déclaré qu'il partage la souffrance de la population, tout en l'appelant à rester vigilante et à s'assurer de qui fait quoi dans leur quartier.
Pendant ce temps, dans le territoire de Masisi, plusieurs sources confirment que la cité de Mweso est à nouveau occupée depuis hier par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ce à l'issue des violents combats contre les FARDC et les groupes d'autodéfense. C'est dans le groupement Bachali Mokoto où ces rebelles ont multiplié des attaques ces derniers temps tout en occupant plusieurs localités. La situation est également restée tendue hier dans la région de Bihambwe dans le groupement Mfuni Kibabi, chefferie de Baoundé. Selon la société civile, les rebelles du M23 et leur soutien rwandais ont attaqué depuis mardi matin les positions des FARDC et forces d'autodéfense, provoquant un déplacement de la population retournée. Le point avec Rachel Kiesse.
Les rebelles du M23 occupent à nouveau la cité de Mweso alors qu'ils s'étaient retirés de cette entité depuis le 13 mars dernier, après avoir annoncé leur intention de se retirer de plusieurs positions. Les habitants qui venaient de retrouver leur domicile se sont à nouveau enfouis dans plusieurs directions. Des sources affirment qu'après leur retrait de Mweso, ces derniers ont toutefois conservé plusieurs autres positions stratégiques dans le Bachali Mokoto, ce qui leur a permis d'occuper d'autres entités vers Mpati, Kivuye et au-delà. D'après nos sources, les rebelles étant déjà au niveau de Macha, en direction de Kachiru, JTN, à la limite entre la chefferie de Bachali et celle de Bwito, voudraient prendre la direction de Kashuga. Notez que JTN, ou Jardin Teikole de Ngeri, est une ancienne société de thé très connue qui exploitait jadis une grande plantation dans le groupement Kihondo. Par ailleurs, la société civile de Masisi affirme que les M23 ont attaqué les positions des FARDC et forces d'autodéfense à Kasiza, à 3 km de Bihambwe. La population était en débandade et des marchandises et autres biens ont été abandonnés au marché de Bihambwe hier mardi dans la matinée, déplore cette structure.
Nord Kivu, toujours, il est désormais interdit aux cultivateurs de maïngos d'aller au champ avant 6h30 ou d'y revenir après 17h. C'est l'une des mesures prises lors d'une rencontre de sécurité tenue le lundi par le moami du village Bapakombe Bakondo, réunion élargie au chef Kapita, représentant des agriculteurs, exploitants des bois sciés et forces de sécurité. L'objectif de cette rencontre était d'évaluer et renforcer la sécurité dans le village de Bapakombe du secteur de Benimbaou, territoire de Beni. Ce après après l'attaque par des EDF avec mort d'homme la nuit du 23 au 24 mars dernier à Vemba. Il était aussi question de mobiliser les chefs locaux autour de la situation sécuritaire actuelle dans cette partie du territoire. À l'issue de cet échange, certaines mesures ont été prises. Le Mwami Alphonse Adjou Taïbo Bin Kitobi, chef du village de Bapakombe Bakondo, revient ici sur certaines de ces mesures au micro de Guylaine Kassassia.
À la sortie de cette rencontre, les mesures suivantes ont été prises. Premièrement, interdiction formelle aux agriculteurs d'aller au-delà des dernières positions militaires en attendant que nos forces armées finissent à nettoyer la vallée de la rivière Semuliki où l'ennemi circule actuellement. Deuxièmement, il est interdit à la population de passer nuit dans leurs champs respectifs plutôt proches des forces de défense déjà installées dans les Mayangos. 3. À la population regroupée aux positions militaires, il est interdit d'aller au champ avant 6h30 et d'y revenir après 17h. Pour ceux qui font le mouvement de la ville vers Mayangose et vice-versa, ne sont plus autorisés de traverser les postes de contrôle sécuritaire avant 6h30 et après 17h. In fine, seules les personnes identifiées et à leur jeton de contrôle auront accès à leur champ afin de limiter les infiltrations.
La même source demande aux autorités politico-administratives de Béniville et territoire de bien vouloir accompagner ces mesures pour la consolidation de la sécurité, aux autorités militaires de nettoyer la vallée de la rivière Semuliki et de multiplier les patrouilles de combat dans cette zone pour la protection de la population. En Ituri, 3 femmes ont été violées et plusieurs biens, dont une importante quantité de minerais, emportés par un groupe d'hommes armés non identifiés. C'était pendant leur incursion lundi dans le carré minier dénommé Vatican au PK-47. Nous sommes à 300 km de Bunia sur le tronçon Nyanya-Isiro au nord-est de Mambasa Centre. Selon des sources locales, ces inciviques ont également cambriolé le week-end dernier 6 comptoirs d'achat d'or dans le groupement Bandaka après avoir tiré plusieurs coups de feu à Nyanya Centre. Une des victimes qui a requis l'anonymat explique les faits au micro de Ezekiel Mouzalia.
Ils nous ont rencontrés, on était à 3 filles, ils nous ont enfermés dans une chambre. L'un est venu et est parti avec l'une d'entre nous, elle l'a violée. Ensuite ils sont retournés vers nous aussi. Après ils nous ont dit d'aller puiser de l'eau. Quand ils voulaient nous violer, nous aussi, nous lui avons dit que nous sommes malades. Ils se sont retirés. Puis ils nous ont montré certains de leurs qui, selon eux, voulaient profiter de nous. Ils nous ont accompagnés, arrivés à quelques mètres, ils nous ont fait fuir.
La présence de ces hommes armés inquiète la population et affecte les actes économiques dans la région, affirme la société civile locale. L'administrateur militaire du territoire de Mambasa promet de s'exprimer ultérieurement à ce sujet. Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, 2 personnes tuées, dont un militaire, bilan d'un incident survenu hier après-midi dans une maison de commerce des vivres frais située juste à côté de la RTNC Kisangani. En effet, 4 hommes habillés en civil et armés sont entrés dans cette maison et ont tiré des coups de feu avant de se livrer au vol. Alertés par les détonations d'armes, 2 militaires de garde à la RTNC sont venus pour s'enquérir de la situation. Ils ont été accueillis par des balles tirées par ces malfrats avec qui ils se sont retrouvés. Né à né, le récit de Jacques Mokonkole rendu par Florida Kambo.
Des sources policières rapportent que ces malfrats n'ont pas hésité à tirer sur les 2 militaires qu'ils ont croisés juste à la sortie de la maison des commerces. L'un est tombé sur le cou et le second, grièvement blessé, a été acheminé à l'hôpital pour des soins appropriés. Immédiatement après cet incident, 3 des malfrats ont réussi à s'enfuir. Le 4e, déséquilibré sur sa moto, est tombé pendant qu'il était poursuivi par des policiers commis à la DGI située à quelques mètres de là. Il s'est vite relevé et a commencé à fuir. Mais il a été rattrapé à plus de 100 mètres par la population qui le poursuivait. Il a été lynché par la foule en colère. Au total, 2 personnes, un militaire et un malfrat, ont péri dans cette attaque. Ce énième cas de vol à main armée à Kisangani relance une fois de plus la problématique de l'insécurité dans cette ville.
Et dans le territoire de Bagata, au Kwilu, une nouvelle autorité traditionnelle a été tuée par des hommes armés non autrement identifiés. Il s'agit du chef de terre de Kimpasi, groupement Kisia, dans le secteur de Wamba. Il a été abattu dans la nuit de lundi à hier mardi par ces bandits qui ont fait incursion dans son village. Le directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires sociales du Kwilu, qui livre l'information, rapporte qu'un déplacement massif des populations vers la cité de Fatundu est de nouveau signalé. Justice. Je vous l'ai dit dans les titres, au procès du député Edouard Mwanga Chouchou et son co-détenu policier Robert Mouchamaliwa, le prévenu principal reconnaît avoir détenu l'arme GP et 42 munitions de guerre, mais avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur, selon sa déposition. La haute cour militaire a débuté l'audience d'instruction du dossier dans son fond hier à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa. Une remise a été sollicitée par le ministère public afin d'accomplir ses devoirs, remise accordée par la cour pour le mardi 4 avril prochain. Jeff Ngoy Mulunda, reportage.
Reconnaissez-vous avoir détenu 42 munitions et armes de guerre saisies chez vous? C'est la question des juges au prévenu Edouard Mwanga Chouchou. Celui-ci répond par l'affirmative.
J'ai sollicité une arme personnelle à l'administration du territoire. Le ministre de l'Intérieur, qui était Mouyel à ce moment-là, m'a demandé d'écrire officiellement. Et j'ai demandé cela. Oui, j'ai une autorisation. Tous ces documents ont été emportés par un débat.
Le conseil du prévenu principal, Damien Amoneil.
On a voulu jeter le propre sur lui, mais les choses ne sont pas comme ça. Il est un innocent. Les munitions qui étaient à la maison sont bel et bien des munitions acquises normalement auprès de l'État congolais et il en a des documents.
La réaction du conseil du policier Mouchamaliwa, Jean-Pingalula.
Le ministère public a dit qu'il est à ce jour dans l'impossibilité de donner ce que la cour lui avait instruit de faire. Mais en réalité, cela ne nous arrange pas parce que celui qui est venu à la charge, il doit prouver de quoi il nous reproche.
Quel devoir attendu du ministère public pour Yudi, avocat de la partie civile de la République, explique.
L'ouverture du coffre-fort et également l'autorisation de port d'armes que M. Mwanga Chouchou prétend avoir eu.
C'est à l'audience du mardi prochain que le coffre-fort du député sera publiquement ouvert pour découvrir ce qui y est caché.
Et nous poursuivons avec notre série de reportages sur les voies de canalisation à Kinshasa. Hier, nous avons évoqué la problématique de la cartographie de ces voies de canalisation en démontrant que plusieurs caniveaux que nous avons pu visiter n'atteignent pas les grands réservoirs. Dans ce troisième reportage, nous mettons l'accent sur le travail des agents commis à la construction des voies de canalisation, mais aussi les constructions qui continuent à pousser dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, beaucoup de ces constructions ne respectent pas les normes urbanistiques. Jacques-Yves Moulima nous en parle.
À Kinshasa, il semble que tout a été fait pour favoriser les inondations. Tenez, un grand caniveau est actuellement en construction sur l'avenue Flambeau, en face de Phoenix, à Bon Marché. Ce caniveau commence à l'avenue Epolo, juste devant Robank, et s'arrête brusquement sur l'avenue Échevin. Encore en construction, ce caniveau ne mène nulle part, et déjà, il est envahi par les sables et des bouteilles en plastique. Autre exemple, sur le boulevard du 30 juin, juste après le saut de mouton de Mandela, il y a toujours inondation avant d'arriver à l'hôtel du gouvernement. À scruter de près, l'artère forme une sorte d'assiette qui conserve l'eau de pluie entre Interpol et Royal. Et à ce niveau, il n'y a pas une jonction pour amener l'eau vers la rivière Gombe, située au sud, un peu en aval. Même si on nettoie et qu'on enlève la boue, l'eau n'a nulle part où aller. À Bandal, de grands travaux sont entrepris en ce moment pour en finir avec les inondations qui avaient rendu l'avenue Kasavubu sur le tronçon compris entre bloc commercial et l'avenue Kisangani, invivable. Les caniveaux étant bouchés, les constructions anarchiques passant par là, l'eau n'arrivait pas à se déverser dans la rivière Makelele, située en aval. Pourtant, c'est ce qui devrait être fait. Un peu plus loin, derrière le palais du peuple, à Lingwala, dans le quartier dénommé Beauvent, toutes les avenues de l'intérieur n'ont presque pas de caniveaux. Pire, la plupart des constructions n'ont pas suivi les normes urbanistiques. Résultat, lorsqu'il pleut, le quartier est inondé.
Dans l'actualité aussi, le rôle majeur des nouvelles technologies sur la transformation des entreprises publiques. Ce thème est au centre d'une conférence qu'organise Africa Tech Invest pendant 2 jours à Kinshasa, soit de mardi 28 à ce mercredi 29 mars. L'objectif est d'identifier les conditions de succès d'une transformation digitale des entreprises publiques, mais aussi les difficultés réelles et potentielles auxquelles elles font face. Abordant la question de gouvernance et économie numérique, Kale Kalemba, directeur de régulation chez Vodacom RDC, et l'un des panélistes recommande aux autorités d'harmoniser les différentes lois dans le secteur du numérique. Kale Kalemba est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Le numérique est le catalyseur justement du développement. au gouvernement, c'est vraiment surtout dans le domaine numérique, s'assurer que les différents textes qui vont être mis en place soient alignés, parce qu'on se retrouve avec plusieurs catégories de textes et des fois il serait intéressant qu'il y ait une bonne harmonisation à ce niveau en vue d'éviter de dupliquer aussi par exemple les autorités de régulation qui pourront encadrer justement ce secteur. Et enfin, vis-à-vis de nos partenaires, de nos... je pense qu'il ne faut pas vivre en dehors justement du numérique. Il y a beaucoup de contraintes qui vont tout au travers de cela, mais aussi beaucoup d'opportunités. Donc la gestion du risque est l'élément important qu'il faut prendre en considération, soit dans les affaires, soit dans les relations directes avec les partenaires, comme vous d'accord.
Actualité internationale.
Amnesty International accuse l'Occident de pratiquer une politique de deux poids deux mesures dans la gestion des crises telles que celle des réfugiés et des droits de l'homme. Dans son rapport annuel publié mardi, l'ONG affirme que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a dévoilé au grand jour l'hypocrisie des États occidentaux qui ont réagi avec force à l'agression russe mais ont fermé les yeux sur les violations commises ailleurs, précise le conseiller principal pour Amnesty International. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.